Les nuits de France Culture.
Depuis 1932 et l'exposition à l'Orangerie pour le centenaire de sa naissance, rien ne s'était passé d'aussi important autour d'Édouard Manet. Manet, 1832-1883, c'était à Paris, un siècle après la mort du peintre, en 1983, et cela reste l'une des expositions les plus visitées de l'histoire des expositions dans notre pays. Cette année-là, entre le 23 avril et le 1er août, 735 000 personnes se pressèrent au Grand Palais pour y voir une centaine de toiles et autant de dessins et de gravures. À la tête de la réalisation de ce qu'était cette énorme affaire, on trouvait la directrice du musée d'Orsay, Françoise Cachin, que l'on entendra dans l'archive qui va suivre. Alors que se tenait cette grande rétrospective au Grand Palais et que s'ouvrait en contrepoint au Centre Pompidou l'exposition « Bonjour Monsieur Manet », les Nuits Magnétiques se penchaient sur le cas Édouard Manet et cela commençait par un rire. Le rire de Philippe Lacoulabarthe, dont l'embarras amusé répondait à la question que lui posait tout à trac et presque à la blague Jean Dève. Quelle est la situation de Manet par rapport à nous, au moderne et à la modernité? Manet et la modernité, vaste question autour de laquelle tournait pour une bonne part l'émission de Jean Dève. Nuit magnétique, Édouard Manet, diffusé la première fois le 8 juin 1983 sur France Culture.
Philippe Lacoulabarthe, selon vous, quelle est la situation de Manet par rapport à nous, au moderne et à la modernité?
Ça, je ne sais pas du tout, alors.
On peut laisser ouvert le catalogue, par oui. Contre.
Le 11 mai 1865, Baudelaire écrit à Manet « Il faut donc que je vous parle encore de vous. Il faut que je m'applique à vous démontrer ce que vous valez. C'est vraiment bête ce que vous exigez. On se moque de vous. Les plaisanteries vous agacent, etc., etc. Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas? Avez-vous plus de génie que Chateaubriand ou que Wagner? On s'est bien moqué d'eux, cependant. Ils n'en sont pas morts. Et pour ne pas vous inspirer trop d'orgueil, je vous dirai que ces hommes sont des modèles, chacun dans son genre, et dans un monde très riche, et que vous, vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Cette décrépitude dont parle Baudelaire, Manet mettra 20 ans à la déployer, du déjeuner sur l'herbe, au bar, aux folies bergères. 20 ans à la charger de signes personnels, exprimant plastiquement l'objet de sa vision. Comme le prédit Baudelaire, Manet est le premier et restera le premier. La peinture de l'époque est académique, aux formes délimitées, aux formes serrées. En 1862, lorsqu'il achève le déjeuner sur l'herbe à l'âge de 30 ans, les formes commencent à se desserrer, à s'éloigner de la peinture. Les formes commencent à s'entourer d'air, à devenir presque impersonnelles, sur fond uni, sombre ou gris. Les formes commencent presque à nous ressembler. La peinture moderne est née. Manet a regardé Goya et Velázquez, Picasso et Matisse, plus tard, Cézanne et Magritte regarderont Manet. À l'occasion de l'exposition « Bonjour Monsieur Manet » du Centre Georges Pompidou, qui ouvre ses portes ce soir même, en contrepoint à la rétrospective qui marque au Grand Palais le 100e anniversaire de la mort de Manet, Jean-Pierre Bertrand, Jörg Ortner et Jean-Michel Alberola nous parleront de leur rapport à Manet et des travaux qu'ils y montrent. Le peintre Constantin Byzantios, Isabelle Fontaine, conservateur au musée Georges Pompidou, Françoise Cachan, conservateur au musée d'Orsay, décriront pour nous les grandes toiles de Manet. Dominique Fourcade nous fera découvrir comment la forme, peu à peu, se remplit d'air, se creuse, se volatilise. Philippe Lacoulabarthe et Marcelin Plenet nous expliqueront la modernité d'Édouard Manet.
Vous parliez tout à l'heure du portrait de la... pas de Baudelaire...
De Jeanne Duval.
Mm. Que vous avez vu à Budapest.
Oui. J'ai peu de choses à en dire. Hein. C'est tellement le genre de tableau ou de toile absolument incontestable. Au premier coup d'œil, c'est une espèce de perfection très brutale d'ailleurs. Parce que le modèle est une sorte de regard dur qui ne vous quitte pas pendant que vous regardez le tableau, qui est tout à fait étonnant.
Philippe Lacoulabarthe.
Pour moi, alors, ça représente, oui, une espèce de perfection moderne, si jamais il y a de la perfection dans le moderne. Dans le moderne au sens strict du terme.
Quel est le sens strict du mot moderne ?
Ah ben je crois en l'occurrence là le sens baudelairien. Quand Baudelaire parle du peintre de la vie moderne, même si ce n'est pas de manière qu'il s'agit, c'est-à-dire le moment où l'art européen s'empare de la civilisation urbaine. Je crois que j'irai pas plus loin pour définir le moderne là, mais... L'art classique, dont les codes avaient peu de choses à voir avec la... Non pas avec la représentation de la ville, ça n'a strictement aucune importance, mais avec le passage et le mouvement de l'histoire, l'art tout d'un coup est obligé de métamorphoser les codes anciens pour laisser passer cette histoire. Et dans Manet... La première chose qui frappe, c'est que l'histoire passe, et bien entendu pas du tout au sens de la peinture d'histoire. Par exemple, les corps féminins ou masculins, d'ailleurs chez Manet, sont déjà tout à coup des corps modernes qui ne sont plus des corps venus de la peinture, même si Manet peint d'après la tradition. Assez systématiquement. Alors la maîtresse de Baudelaire, c'est ça, on a l'impression que c'est le... De tout le 19e siècle, le peintre qui correspond le mieux à ce qu'a introduit Baudelaire. Et qui donne à voir ce que dit Baudelaire.
Mais souvent, dans une toile de Manet, il y a un sentiment d'étrangeté, comme si le peintre voulait détourner le réel, du réel. Je pense par exemple au Déjeuner sur l'herbe, bien sûr, mais il y a aussi la Femme au perroquet, qui est une toile tout à fait étrange. Vous voyez, c'est un élément qui nous permet de mieux voir aujourd'hui Manet.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ce qui ne peut que frapper, c'est que la peinture de Manet, c'est une entreprise de, comment on pourrait dire ça sans faire des néologismes douteux, d'étrangement du réel. La plupart des grandes toiles de Manet sont toujours unheimlich. Familières, mais étranges ou inquiétantes dans leur dans la familiarité. Bon, il peint de manière apparemment très 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 classique. Il y a peu de provocations délibérées, du moins il me semble, mais il a une manière de disposer les choses. Je pense au déjeuner sur l'herbe et à cette fameuse nudité sur fond de redingote et de
costume.
Et de costume. C'est comme si tout d'un coup il disait voilà le nu féminin de la peinture, voilà ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a une immense charge poétique dans ce coup, sans aucune audace érotique, sans aucune provocation.
Il appelait quand même la partie carrée.
Oui, bon, ben ça, bien sûr. Bon, j'imagine que... Oui, mais... je veux dire, dans ce qu'on voit, me semble voir, un nu venu de Giorgione, par exemple, et puis des hommes modernes qui pourraient être en face de ce nu, mais qui, il se trouve, sont sur la toile même et dans la même scène. Alors ça, bien entendu, le sentiment d'étrangeté est très grand. Et puis il y a une espèce de déflagration entre l'ancien et le moderne qui fait saisir. C'est peut-être l'un des tableaux que je connais où, bon, ce que j'essayais tout à l'heure de dire maladroitement, où tout d'un coup, toute l'histoire, pas l'histoire de l'art, mais l'histoire européenne est condensée dans la fulguration d'un contraste.
Vous connaissez la femme au perroquet ?
Il faudrait le revoir.
Dominique Fourcade, nous sommes au cœur de l'exposition Manet, au Grand Palais, dans un angle qui nous permet à la fois de voir le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia.
La révolution de Manet, ce qu'elle a de prodigieux, c'est qu'elle s'inscrit en continuité. Elle embrasse toute la continuité de la peinture qu'il a vue avant lui. Elle en retient ce qu'il y a de plus peinture dans la peinture. Et il embraye sur quelque chose de nouveau, avec naturel et très tôt. Ça, c'est la première constatation qu'on se fait quand on pense à Manet.
Quels sont les problèmes qu'il aborde dans une toile comme le déjeuner sur l'herbe ?
Il aborde beaucoup de problèmes sans même... dire à son spectateur, sans même dire à son spectateur et sans même avoir l'air de se dire à lui-même qu'il les aborde. C'est pas une peinture avec un programme. C'est une peinture où il traduit directement ce qu'il éprouve avec la violence de la façon violente dont il l'éprouve. Parce qu'au fond, toute une partie de la peinture et même de la grande peinture consiste à tamiser la violence de l'impression, la violence de l'émotion, lui rend directement ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il aborde comme problème, ou plutôt qu'est-ce qu'il peint et découvre en peignant, qu'est-ce qu'il peint comme problème, sans même nous laisser aucune distance, même de temps, pour l'aborder, il nous met dans un problème devant lequel il est lui, dans lequel il est lui. Ici, ça peut être considéré comme les rapports de l'atmosphère et des formes et des volumes. Dans le déjeuner sur l'herbe, le contraste extraordinairement violent, c'est que les formes ne se fondent nullement dans l'atmosphère. Et toute une partie de l'itinéraire de Manet est une des raisons pour lesquelles il est un peintre majeur en lui-même et dans toute l'histoire de la peinture, et par rapport à ce qu'il précède et par rapport à ce qu'il va le suivre très immédiatement, c'est les impressionnistes, c'est de réussir à ce que l'air mange les formes. Dans le déjeuner sur l'herbe, l'air ne mange pas encore les formes, ne les attaque pas encore. Par exemple, le volume de la jeune femme nue au premier plan est intact, extrêmement volumineux, alors que s'il avait peint ça 15 ans plus tard, il l'aurait fondu dans l'air qui l'entoure. Et l'attaque des formes et des volumes et des contours par l'air, par l'atmosphère et la fusion de tous les éléments en un tout liquide, lumineux, aérien, cette fusion opérée d'ailleurs absolument avec un côté direct, Manet, c'est le peintre le plus direct de l'histoire de la peinture française, ça va être le sujet de sa carrière, ou un des sujets principaux de son métier de peintre.
Il y a derrière l'Olympia une toile que j'aime beaucoup, qui s'appelle la femme au perroquet.
C'est une toile mystérieuse. D'abord, je veux dire que les différents éléments iconographiques ne portent pas en eux-mêmes l'explication de leur sens, et donc ça contribue à un mystère. C'est une toile complètement excessive, complètement excessive. À commencer par le citron qui est là en bas et qui est un des éléments de l'iconographie Manet, si on peut dire, un des éléments de base, un des signes Manet. Mais c'est quand même, c'est aussi une toile d'excès, c'est aussi une grande toile d'excès. Ce qui m'émeut beaucoup dans cette toile, c'est la façon dont le rose de la robe vient lutter avec le fond gris. Mais après, dans d'autres toiles, il va résoudre ce problème mieux, notamment dans les portraits qu'on pourra voir en bas, à la fin de l'exposition. Et puis, les gens qui vont le suivre pourront le résoudre encore mieux, mais ne le résoudront encore mieux que parce que lui l'a posé, ce problème. Il l'a posé à la suite d'ailleurs de la peinture espagnole, mais il l'a posé encore plus radicalement. Une forme dans l'espace, qu'est-ce que ça doit faire ? Qu'est-ce que ça doit faire ? Il faudra encore attendre 40 ans, 50 ans, pour que la forme et l'espace ne fassent qu'un. Mais lui est celui qui pose le problème de telle sorte que les gens qui suivront ne pourront plus l'éluder, il va falloir le résoudre. C'est Cézanne qui va aider fondamentalement à la résolution. Comment placer une forme dans l'espace ? Évidemment, cette peinture-là, dans sa beauté, pose aussi ce problème-là. Et alors, le plaisir qu'on a, par ailleurs, à regarder le rose de cette robe, le rose du satin, si c'est bien du satin, et les différentes nuances de ce rose, et la violence, par exemple, de la manche, et les coups de lumière, et même le rose parfois devient du brun, un brun rose, un rose brun, et puis la lumière et le grisé qui glisse là-dedans. Évidemment, le plaisir, là, est éternel. On peut
le perroquet fait partie aussi du fond.
Le perroquet fait partie du fond, oui.
Enfin, il émerge même du fond.
Il émerge du fond. Il émerge du fond. J'ai du mal à l'intégrer, pour être honnête. J'ai du mal à l'intégrer. Et effectivement.
Il est penché sur une masse liquide qui renvoie au citron, tout en bas.
Oui, effectivement. Ces deux volumes haut et bas.
Deux transparences.
Absolument. Ce sont à la fois des transparences, ce sont des volumes cylindriques. Et puis surtout, ce sont des volumes, alors qu'il y a beaucoup d'aplats là-dedans. Effectivement.
Vous ne croyez pas qu'il y a un problème de parole chez Manet, qui s'est entouré quand même de deux grands écrivains, Baudelaire et Mallarmé?
Un problème de parole dans quel sens?
Le perroquet parle.
Oui. Répète. Et la figure est muette. Ah, je crois que c'est... Je ne sais pas, c'est peut-être une bêtise, mais c'est quand même un peintre très très littéraire, comme on dit. Bien entendu, il y a toujours de manière embryonnaire un récit ou peut-être à la limite un poème, style poème en prose, inclus dans chacune de ces toiles.
Manet, c'est le début de quelque chose, mais pas le début. Je ne le prends pas en tant que début d'art contemporain, en tant que le début d'une histoire, comme ça.
Jean-Michel Alberola.
Moi, je vois Manet un petit peu de cette manière-là.
Comment avez-vous abordé Manet? À partir de quoi?
À partir de la notion d'aveuglement. L'aveuglement et la parole qui ne sort pas. La plupart des personnages de Manet, dans la peinture, il y en a beaucoup qui ouvrent la bouche et on n'entend pas ce qu'ils disent. Et je trouve que c'est une chose terrible, comme ça, de voir de la parole qui est peinte et que la parole ne sorte pas. Bon. Et en même temps, ça s'articule à tout ce que je fais sur Diane et Actéon aussi, qui est une histoire d'aveuglement et de... Il y a le mutisme aussi d'Actéon. Et dans Manet, il y a un peu la même chose, quoi.
Vous pourriez décrire quelques toiles de Manet où la bouche est ouverte? Parce que les personnages du Déjeuner sur l'herbe ont la bouche fermée.
Oui, mais je pense le portrait de Roland Fort en Hamlet, ou alors je pense au balcon aussi, où il y a l'homme qui est derrière les deux femmes, qui vient de dire quelque chose ou qui va dire quelque chose. Mais ça s'arrête comme ça. C'est comme si... moi, je dis que Manet, c'est un peintre sourd. Parce que je pense un peu au cinéma muet, comme ça, où on voit les gens qui parlent et on n'entend pas leurs paroles. Puis je dis que le cinéma, il a débuté pas très loin de Manet. Donc il y a quelque chose qui se passe comme ça au niveau de la parole. Après, la peinture va en dire peut-être plus, mais je ne sais pas si on va bien entendre la parole de la peinture. Parce que le problème, c'est la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on dit autour, et ce que la peinture dit, est-ce qu'on peut entendre de la peinture, quoi. Enfin, moi, c'est des problèmes comme ça. Autour de Manet, ça a surgi un petit peu comme ça. Et pour moi, c'est des toiles terribles, parce que il y a ça qui est derrière et qui sort pas comme ça, qui est comme en absence comme ça. Moi, je trouve que c'est...
Et selon vous, la lumière ou les couleurs sont aussi bloquées que la parole?
La lumière, elle accentue ce côté terrifiant un peu, du mutisme ou de la surdité qui est dans le travail de Manet, ou de l'aveuglement. La lumière, elle écrase les choses comme ça, elle écrase les gens. Ils sont sous la lumière comme ça, ils essaient de parler, mais ils ne disent rien, on n'entend rien.
Il y a beaucoup de blanc chez Manet, de superposition de blanc. Je pense évidemment à Olympia. Blanc bleu, blanc rose, blanc gris. Et je pense aussi au problème du reflet. Il y a énormément de miroirs. Alors je vois un rapport entre le reflet, le miroir et cette superposition de blanc. Comme pour ne pas peindre réellement le personnage, mais pour peindre son reflet. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de la mort sur ces toiles?
Je ne sais pas si c'est pour peindre le reflet plutôt que pour peindre l'image. On a l'impression que Manet fait d'abord des images, à plat, et presque constamment à plat. Il y a très peu de profondeur de champ. Et c'est d'ailleurs ce qui donne aussi le sentiment d'étrangeté devant ces toiles. Alors, bien entendu, on a l'impression que c'est un des premiers, alors en sens, c'est moderne. C'est l'un des premiers qui, délibérément et systématiquement, prend pour source d'inspiration la peinture elle-même. Il fait du Velázquez, il fait du Goya, il répète au sens strict. Et en répétant, bien entendu, ce qu'il donne à voir, ce n'est pas, comme on peut dire, le référent, enfin le modèle, la scène, etc. Mais il donne à voir d'abord, ceci est un tableau. Mais ça, bon, c'est une chose très connue. Il y a quelque chose peut-être de plus important. Moi, je crois que c'est une forme d'appréhension des choses. Enfin, comme si Manet prenait conscience que tout à coup, le monde était devenu image. Et il se mettait à... Bon, ça serait là de la très grande différence avec ses contemporains ou ses quasi-contemporains. Enfin, au moment où la peinture semble retrouver tout un souffle dans le paysage, la peinture d'extérieur, etc., Manet pas du tout dit « tout ça c'est de l'image ». C'est déjà de l'image. Et je peins cette image. Alors les aplats blancs, les reflets, les miroirs, me semble-t-il, indiquent plutôt ça.
Chez Manet, enfin, ce qui me semble, c'est un monsieur qui fait de la peinture par moment, qui se laisse complètement aller à une sorte de peinture. Par exemple, c'est la place Clichy, tu vois, des choses comme ça. Cette femme avec des dessins assez ronds, comme ça.
Jean-Pierre Bertrand.
Une peinture, enfin, qui laisse aller, comme l'asperge, enfin, comme ça. Et puis une autre peinture où, ce qui est très important, c'est la densité. Ce qui est absolument le contraire du reste, où... cette peinture un peu impressionniste, Place Clichy, rue Montorgueil, hein, par là, enfin, tout ça est une peinture qui sait des couleurs, etc. Et tout le reste, c'est tout à fait autre chose. Et ça aurait quelque chose qui a à voir avec une densité, le reflet, le nacré, enfin, quand je pense à l'asperge, je pense à ce petit tableau qui s'appelle le citron, et lui qui a une densité incroyable, enfin, qui est à l'opposé justement de cette asperge qui en touche comme ça, qui laisse faire.
Quel rapport a-t-il avec le vêtement? Est-ce que le vêtement est là comme pour cacher la présence du corps, comme pour rendre absent le corps?
Sur beaucoup de tableaux, en particulier La maîtresse de Baudelaire, des tableaux comme ça, où le corps n'existe même plus. Il n'y a plus de corps. Ce qu'il en sort, c'est une main, une tête, et il y a une dissimulation du corps. Mais avec un rapport, pas seulement aux vêtements, mais au blanc, quelque chose qui est blanc, comme ça. Et puis alors, ce qui me touche aussi là-dedans, c'est un rapport à une sorte de trompe-l'œil, enfin, quelque part. Une sorte de, pas vraiment simulacre, mais une tromperie. J'ai revu Le déjeuner sur l'herbe. Pour moi, Le déjeuner sur l'herbe, c'est ça. Alors, c'est l'Arche d'Aplat dont je parlais, le premier Manet, le Manet de la rue Montorgueil, de la place Clichy, etc. Ce sont des larges aplats. Et on dirait une sorte de toile de fond, pour moi. C'est peut-être dur de dire ça, mais ce que j'en pense, c'est une toile de fond pour un théâtre. Ou alors, d'un seul coup, bon, où il y a une ambiguïté dans la toile de fond. Il y a deux plans. Il y a cette toile de flanc, et puis dans ce plan même, il y a un autre plan qui est aussi cette femme derrière, qui est dans un plan d'eau, comme ça, derrière, courbé. Et puis alors, il y a autre chose qui correspond à l'autre Manet qui est dense, c'est le visage de la femme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle tient son visage, qu'une peinture comme ça, de toile, tient un visage, et que ce visage de femme n'appartient pas forcément au corps de cette chose peinte, là, qui sont une sorte de toile, comme ça, en large aplat, la verdure, enfin, tout ça. Il y a ça, et les vêtements, qui semblent posés contre la toile, et qui sont peints, alors, avec une densité incroyable, enfin, une nuance. Mais quand je parle de densité, ça veut dire une sorte de force, enfin, terrible, quelque chose de terrible.
Où est le simulacre? Enfin, c'est un mot que j'aime beaucoup. Chez Manet, je pense, par exemple, à la femme au perroquet. Où est le simulacre? Attends. C'est une femme.
Est-ce que je peux
qui est debout?
Oui, oui.
Et à sa gauche, il y a un perroquet.
Ah oui, 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 c'est vrai. Je la vois pas cette toile.
Elle est très très grande.
Oui, oui, oui.
Elle n'est pas reproduite.
Non. Ah, c'est dommage.
Je me tourne vers Isabelle Fontaine. Vous pourriez décrire Le déjeuner sur l'herbe? Est-ce que selon vous, il y a quelque chose du secret dans cette toile?
Je sais pas. Moi, je sais que c'est une toile qui me rebute presque. J'ai du mal à regarder parce que je sais pas. J'ai envie de regarder au fond, et au fond, ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est faux, que justement pour une fois Manet, cette immédiateté, il y a quelque chose qui n'est pas là au fond, qui est donné à voir comme de un bois, un sous-bois, du ciel, de l'eau, et j'ai pas l'impression que ce soit là vraiment. Alors là, il y a quelque chose qui est mystérieux, que je n'ai pas d'explication. Quant aux personnages, ils sont là avec évidence. Le corps nu, déshabillé de Victorine Meurent est là. Et enfin, je sais pas, c'est pas un tableau qui me donne ce sentiment, qui me donne envie justement d'entrer dedans comme le bar des Folies Bergères, qui pour moi est le... Il y a ce regard qui est renvoyé, enfin ce regard dans lequel on se regarde, et on entre et on sort du tableau, on rentre, on sort, mais avec un cadrage, puisqu'il s'agit d'un cadrage, mais seul, enfin je vois pas d'autre moyen que la peinture pour donner cette circulation, cet espace d'où on sort, d'où on entre, enfin on est obligé d'entrer dans cet espace, et on est aussi obligé d'en sortir. Et on est obligé de bouger continuellement.
Mais combien de personnages pour vous dans cette toile?
Je ne sais pas. Il y a une femme vue de face. Il y a son reflet qui... Je veux dire, c'est une autre. On peut supposer que c'est son dos, que c'est le dos de la jeune femme qu'on voit de face. Mais ce n'est pas du tout sûr. Et puis, il y a un visage qui, en principe, est le vôtre, puisque c'est le visage qu'elle regarde, et c'est le visage qui se reflète dans la glace. Mais c'est pas le vôtre, bien évidemment. Et puis, il y a tout le monde autour, et puis, il y a le petit personnage dont on ne voit que les jambes, et puis, je sais pas, il y a 50, 60 personnages, plus vous.
Il y a à la fois le bar et le miroir. Les personnages sont pris entre ces deux meubles.
Et votre propre espace de spectateur est dedans.
Bah là, c'est en fait... le simulacre, c'est un truc fou, cette toile. C'est-à-dire que toute l'atmosphère de la salle qu'il peint, prise dans la glace, est derrière lui. C'est-à-dire tout ce qui est vie, enfin, etc., est derrière son dos. D'ailleurs, c'est une de ses dernières toiles. Et puis là, il se voit quelque part en une femme, Manet. C'est-à-dire que si elle n'était pas... Elle masque son propre... son corps à lui. Et là, il y a un truc qu'on n'arrive pas trop à comprendre dans cette toile. Parce que est-ce que c'est elle qu'on voit à droite, comme ça, qui est de dos, parlant à un homme? C'est pas évident, en fait. C'est un truc très bizarre. Et moi, en particulier, bon, pour cette exposition de Bonjour, Monsieur Manet, j'ai travaillé sur un détail de cette toile, dont la reproduction, donc c'est une reproduction photographique, qui est prise dans un livre. Et il se trouve que dans le livre, la photo de cette reproduction tombe, est sur une double page, et qu'il y avait une charnière. Cousu humain, etc. Donc j'ai arraché, bon, j'ai défait l'image, mais j'ai respecté la charnière qui se trouvait justement dans le livre à cet endroit-là. Et c'est drôle parce que la charnière tombe juste dans son bras, là, comme ça. Et en fait, et la charnière, c'est ce bras qui se renverse. En fait, moi aussi, là, j'ai fait un simulacre. Si bien que ce bras semble appartenir à un autre corps. C'est-à-dire que ce qu'on voit à gauche du bras, on ne sait plus si c'est un homme ou une femme. On dirait qu'il y a deux personnes en présence et qu'il y a une femme de biais qui parle à un corps qui est donc à sa gauche et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et il y a quelque chose, je trouve, chez Manet qui a à voir avec ça, enfin, cette sorte de hétérosexualité ou d'androgynie ou quand je pense par exemple à la maîtresse de Baudelaire, c'est une femme étendue comme ça sur un sofa, elle a une énorme main d'homme, enfin complètement masculine plutôt d'homme, main masculine, qui sort, qui est très très bizarre. Même l'Olympia en fait. L'Olympia n'a pas sa tête, pas seulement son visage, sa tête ne correspond pas à la position de son corps. Elle est légèrement redressée. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans.
Elle a presque le cou cassé.
Oui, qui est cassé, et cassé au lacet noir près, on pourrait dire. C'est le lacet noir qui
se casse
au lacet. Oui, qui lasse cette chose qui regarde frontalement, comme dans le déjeuner sur l'herbe, où il y a une sorte de sourire là-dedans. Et alors, ce qui est très bizarre là-dedans, bon, dans l'Olympia, c'est vrai, c'est le rapport au noir de la femme, au noir du chat.
Et le blanc du reste.
Oui, le blanc du reste.
Et le
nacré du corps, qui quelque part n'est pas du tout désirable, je trouve. C'est une sorte d'image, c'est peint comme une porcelaine, le corps. Et c'est très drôle, ça. Par exemple, le lacet, je pense à la femme au balcon. Et ce que j'ai remarqué beaucoup dans cette toile, évidemment, si elle regarde cette femme perdue, bon, d'accord, mais c'est la densité du collier vert de cette femme qui m'a complètement frappé et qui est terrible, quelque chose de terrible. Non, je trouve je ne sais pas si c'est dramatique, mais je trouve terrible. En particulier dans cette toile qui a une sorte de... qui a une dominante verte un peu dans les balcons, enfin tout. Et puis ce collier vert, là, au ras du cou, comme ça, qui a une force incroyable.
Quel est le regard de Berthe Morisot dans le balcon, qui a quelque chose de terrible, qui ne regarde pas dehors, apparemment?
C'est un peu un regard de haine. Il y a quelque chose un petit peu avec la haine. Elle regarde bien Manet qui est devant. Elle regarde beaucoup Manet qui est devant, qui est en train de la peindre. Mais parce que les autres sont un petit peu absents, la tuile et l'homme sont un petit peu absents. Lénof, le petit garçon est de dos, on ne le voit pas. Mais Berthe Morisot, c'est un petit peu le centre comme ça. Puis c'est autour de tout ça qu'a tourné la peinture de Manet.
Mais regarder un peintre peindre à partir d'un balcon, c'est une position assez dangereuse.
Elle est au bord comme ça.
Elle est au bord.
Elle est au bord. Elle est au bord de la toile de toute façon. Elle est au bord de la toile. C'est celle qui est le plus au bord de la toile. Puis après, on va la retrouver avec l'éventail devant ses yeux. Elle va plus regarder, elle va regarder à l'intérieur de la peinture. Mais elle va être moins au bord. Mais quand elle regarde Manet, elle est complètement au bord. Ouais.
Elle le met au bord ou c'est lui qui la met au bord?
Non, parce que moi je crois que c'est l'histoire qu'il avait avec Morisot qui faisait qu'il ne pouvait pas la mettre autrement qu'au bord. Bon, alors s'il la met au centre, elle est cachée. Elle est cachée. Il faudrait savoir pourquoi, quand elle se recule dans la toile, elle ne se recule pas de beaucoup, elle doit se reculer peut-être de 40 cm parce que ce n'est pas profond. Il faut savoir pourquoi elle doit se cacher. Ou dans le déjeuner sur l'herbe, c'est pas pareil. Le déjeuner sur l'herbe, elle a cette espèce de... Elle a un regard qui est plus calme, comme ça. Mais il y a aussi de la terreur, aussi. Enfin, moi, je vois de la terreur tout le temps. Chez Manet, je vois de la terreur. J'arrive pas à le voir calmement, quoi. J'arrive pas à le voir. Mais je crois que c'est plus possible, maintenant, de le voir calmement. Avec ce que j'ai
fait. C'est vrai qu'il y a un effroi. Souvent, un effroi.
Oui. C'est l'effroi sous la lumière, comme ça.
Vous êtes demandé pourquoi cet effroi, enfin d'où il venait, enfin d'une civilisation urbaine ou d'une société en changement.
Je sais pas, ça c'est peut-être comme si Manet manipulait des choses dont il n'était pas tout à fait peut-être conscient, je sais pas. Peut-être, là je pense un petit peu aux Demoiselles d'Avignon, de Picasso, quelque chose dont il n'était pas maître comme ça. Donc il y a un effroi dans les Demoiselles aussi. Il y a un effroi comme ça chez Manet, parce que c'est l'époque où il y a l'académie, couture, etc. Il y a un effroi quelque part, parce que... Comme si l'effroi était lié au courage aussi. Au courage. Moi je pense à la photo de Fortunio Sarano, c'est le lieutenant de Pancho Villa, qui est devant le peloton d'exécution, qui regarde le peloton d'exécution... Et qui rit, comme ça. Manet, c'est ça, je trouve. Donc, il est logique qu'il y ait de l'effroi. De la terreur aussi, un petit peu. Quelque chose qui regarde, qui ne comprend pas. Ça fuit, un peu. Ça fuit de partout.
Il y a des détails terribles. Je veux dire, par exemple, le jeune homme près de la table, qui est peut-être son fils présumé, on ne sait pas. Eh bien, d'abord, c'est le vêtement. C'est le rapport à la densité du noir, comment est travaillé le noir du vêtement. Et une petite tasse à café, c'est fou, ça. C'est incroyable. Je ne sais pas si on peut dire magique, mais enfin, c'est quelque chose de... Peut-être que la magie aurait quelque chose de... qui approcherait quelque chose d'un peu terrible, enfin. Même ces derniers tableaux... Les fleurs, parce que c'est pas seulement des fleurs, ce sont des fleurs dans un vase, et il y a un tel travail sur le vase, sur le verre, et ce qui se passe dans le verre.
Et le peintre, qu'est-ce que vous pensez du peintre? De l'homme peintre?
Pour moi, Manet, c'est un homme très ambigu, enfin, et surtout dans ses rapports aux femmes. Je trouve ça très bizarre, enfin, il a peint toujours à peu près la même femme. Peut-être que... Son rapport à la femme n'est pas aussi évident, lui. Il ne peut pas analyser sinon le peindre, parce que ça passe par la peinture. Et à ce moment, la peinture se voit, on la voit. Elle est là. Justement, en dehors de métier de peintre, enfin. C'est ça, ce dont je parle. Et qui peut-être lui échappe. Et en fait, cette fête galante du déjeuner sur l'herbe, c'est pour moi... je sais pas, il y a... C'est très énigmatique, quand même. Cette femme qui regarde, et puis... Son visage, comment elle tient son visage, comment la peinture est faite, comme ça. Les deux hommes ne regardent pas. Ils regardent de biais, comme ça. Ils sont peints en large touche, aussi. Les vêtements, d'abord, ils sont noirs, il n'y a pas de détails. Alors que les vêtements de la femme sont très, très... En principe, ce sont ces vêtements qui sont là. Et ils sont peints comme un peu le visage. Tout le reste, c'est... Bon... C'est une sorte de décor, sauf justement ce rapport à cette femme derrière, dont on s'aperçoit après, mais pas tout de suite, qui est dans un rapport, dans une sorte de mare, il y a un rapport à l'eau, comme ça, courbé, comme une sorte d'ouverture, mais aussi comme un décor. C'est très frappant, je trouve. C'est ce que je vois, moi.
Marcelin Plenet, qui est, selon vous, Manet ? Manet, le peintre à la fois du déjeuner sur l'herbe et du déjeuner dans l'atelier, qui, à mon sens, sont deux toiles tout à fait complémentaires, c'est-à-dire familiales.
Écoutez, pour moi, Manet est certainement un des artistes les plus singuliers du XIXe siècle. Certainement aussi un des artistes les plus difficiles à appréhender, un de ceux qui a été le plus difficilement appréhendé, qui a soulevé le plus de malentendus au moment où il a travaillé, où il a montré ses premiers tableaux, et qui aujourd'hui vraisemblablement n'est toujours pas vu pour ce qu'il est. L'homme d'abord est extrêmement étrange. C'est un bourgeois, voire même un grand bourgeois, n'est-ce pas ? Son père est une espèce de commis d'État. Sa mère est la fille d'un diplomate. C'est un grand bourgeois qui vit comme un grand bourgeois, c'est-à-dire qui est très très bien habillé, plutôt distingué, dont les propos sont relativement mesurés, qui n'a pas tellement l'air d'un artiste et qui ne tient pas tellement à avoir l'air d'un artiste. Et je pense, si vous voulez, je pense que il y a chez Manet, tel qu'il apparaît, un peu les contradictions que l'on peut voir dans ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie. C'est-à-dire, la bourgeoisie n'est jamais vraiment ce dont elle a l'air. En général, c'est pire, évidemment. Chez Manet, c'est plutôt mieux. Chez Manet, c'est plutôt mieux, c'est-à-dire que c'est un homme qui, au fond, ne semble pas croire tellement au milieu et à la réalité du milieu dans lequel il est né et dans lequel il vit. Je dirais que, d'une certaine façon, le paradoxe de Manet, c'est qu'il ne parvient pas à croire au XIXe siècle et qu'il ne parvient plus non plus tout à fait à croire à ce qui le fascine, c'est-à-dire à son histoire, à l'histoire de l'art et aux artistes qui le fascinent. Il est dans un doute, il est dans une sorte de doute ontologique quant à son actualité et quant à son origine. Vous savez, Baudelaire disait Manet est marqué par le romantisme dès sa naissance. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça dans Manet. Il y a dans la biographie des choses très très étranges. Par exemple, en ce qui concerne son mariage. En ce qui concerne son mariage, vous savez que Manet ne se marie. Il est en ceci assez proche de Cézanne. D'une certaine façon, il cache sa liaison avec son professeur de piano à qui il fait un enfant, que d'ailleurs il ne reconnaîtra pas. Il cache sa liaison à son père et il ne se marie qu'après la mort de son père. D'ailleurs, vous me parliez du déjeuner sur l'herbe. Il y a une chose qui est à souligner, n'est-ce pas ? C'est que le déjeuner sur l'herbe comme l'Olympia, eh bien, ce sont deux tableaux qui sont contemporains du mariage de Manet. Les deux grands nus les plus scandaleux et les plus spectaculaires de l'histoire de l'art au XIXe siècle sont contemporains du mariage du peintre et de la mort de son père. Je pense que c'est un point qu'on peut souligner. Donc il y a ce point de déséquilibre et il y a des tas d'autres. Il y a d'abord le drame constant dans la vie de Manet, n'est-ce pas ? Il est toujours angoissé de l'accueil qu'on fait à ses œuvres. D'abord parce qu'il veut être un peintre reconnu. Non pas académique, mais un peintre qui ne fasse pas scandale. Il ne comprend pas pourquoi il fait scandale. Il est très angoissé par cela, très déséquilibré par cela. Et il y a, alors il y a deux autres événements qui me semblent tout à fait spectaculaires. C'est d'une part la mort d'Alexandre dans l'atelier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le petit modèle de Manet qui se peint dans son, qui se pend dans son atelier, ce qui fait que Manet va changer immédiatement d'atelier. Et enfin, il y a la mort de Manet qui est un peu celle de Rimbaud, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qui meurt d'une phlébite, des suites d'une phlébite, d'une amputation et d'une gangrène. Donc, si vous voulez, il y a une vie qui a l'air d'être une vie de bourgeois, qui a l'air d'être une vie de bourgeois et qui, en fait, est une vie plutôt bouleversée et plutôt continuellement dramatique. Je pense qu'il faut, retenir cela. Bataille, Georges Bataille dit « Il y a dans le caractère de Manet une sorte de fêlure, une mélancolie étouffante. » Et je pense que c'est cela un peu qui peut permettre de définir Manet et de définir la singularité de Manet que l'on ne voit pas tellement aujourd'hui, et que l'on pourrait reprendre, peut-être plus précisément à partir d'une toile, enfin, en tous les cas, bien sûr qu'il faut fixer sur l'Olympia, parce que c'est la toile qui fait scandale et qu'il faut fixer sur le Déjeuner sur l'herbe. D'abord parce que ce sont deux toiles qui ont une référence explicite à l'histoire de l'art, n'est-ce pas ? C'est-à-dire référence explicite à Titien et à ce que Manet pense être Giorgione, qui est encore un Titien d'ailleurs d'une certaine façon, comme par ailleurs d'ailleurs le balcon se réfère à Goya, n'est-ce pas ? Il y a chez Manet non pas quelque chose qui est de l'ordre du pastiche, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de la reprise et du commentaire des grands moments de l'histoire de l'art et des grands tableaux, n'est-ce pas ? Il est bien évident qu'on peut considérer l'Olympia comme un commentaire, l'Olympia et le Déjeuner sur l'herbe comme un commentaire de Titien, c'est-à-dire qu'est-ce que serait Titien au XIXe siècle, et que l'on peut considérer le balcon comme un commentaire de Goya. Donc il y a cela, et il y a un autre tableau qui est également important dans ce contexte aussi, et qui est la musique aux Tuileries. Qui, à mon avis, est un grand tableau, et qui est un tableau qu'on devrait pouvoir réinterpréter, comme d'ailleurs une grande partie de Manet, à partir de Baudelaire, et peut-être à partir du malentendu, du léger malentendu qu'il y a constamment entre Baudelaire et Manet. Vous savez qu'il y a cette phrase très célèbre de Baudelaire qui dit « Nous sommes grands et poétiques avec nos cravates et nos bottines vernies ». Et il est bien évident que la musique aux Tuileries, ce sont les cravates, ce sont les bottines vernies, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie dans son costume, contemporain. Et là, il y a une chose qui vient commenter à la fois la musique aux Tuileries, qui vient commenter la phrase de Baudelaire, c'est la déclaration de Mallarmé, n'est-ce pas, qui dit de la musique aux Tuileries et des hommes qui sont dans la musique aux Tuileries, ils ont sur le chef quelque chose de sombre et de surnaturel. Eh bien, il me semble que Mallarmé dit là quelque chose de très très précis sur Manet. Il y a dans l'œuvre de Manet, constamment, du commencement à la fin, quelque chose de sombre et de surnaturel. Manet traite le tissu et la croyance bourgeoise en la propriété, n'est-ce pas ? D'où le nombre considérable des natures mortes, avec toutes les références d'ailleurs à la nature morte hollandaise. Manet traite la propriété bourgeoise et la croyance bourgeoise, la croyance de son époque, dans le bien, n'est-ce pas ? Dans la fortune, dans le bien, dans la réussite, dans la science. Il la traite d'une façon sombre et surnaturelle, c'est-à-dire qu'il la traite avec un point de vue que je dirais tout à fait métaphysique. Ce qu'il dit, en fait, ce que dit l'Olympia, n'est-ce pas ? C'est que la chair est mortelle. N'est-ce pas ? Ce que dit dans le balcon l'admirable portrait de Berthe Morisot, n'est-ce pas ? C'est une espèce de considération absolument, non pas tragique d'ailleurs, stupéfaite du fait que ce monde ne tient à rien, n'est-ce pas ? Que la vérité ne saurait en aucun cas être de ce monde, mais qu'elle est de quelque chose qui est plus que ce monde, qui est de l'ordre du sombre et du surnaturel. Et je pense que c'est ça le scandale qu'a fait Manet, au fond. Il a présenté à la bourgeoisie l'image, une image tout à fait... tout à fait évidente de son univers, de son monde, mais il lui a présenté avec un regard qui dit la vérité de cet univers et la vérité de ce monde. Un regard, si vous voulez, métaphysique ou transcendant sur cet univers et sur ce monde. Et je pense que c'est là la grande qualité, la très très grande qualité de l'œuvre de Manet, qui fait, si vous voulez, que par exemple, eh bien, deux ans après l'Olympia et le Déjeuner sur l'herbe, vous avez quelque chose qui vient aussi jouer cela d'une certaine façon, c'est-à-dire vous avez ces deux étonnants tableaux qui sont les deux images du Christ dans l'œuvre de Manet, n'est-ce pas? Le Christ aux anges qui se trouve à l'exposition et le Christ insulté qui ne s'y trouve pas, je crois, et qui date de deux ans après, donc ces deux tableaux qu'on peut dire de référence gréco-latine, païenne ou en tous les cas humaniste d'une certaine façon, n'est-ce pas, puisque la Vénus et le Déjeuner sur l'herbe, c'est-à-dire le concert champêtre qu'on attribue à Giorgione qui est Titien et la Vénus de Titien sont des références à l'humanisme italien. Donc c'est une façon de revenir sur une certaine croyance de la société dans laquelle il vit et de la stupéfier dans son immédiateté, et ça Bataille a très bien vu ça, de façon à en faire apparaître tout le caractère périssable dans un art qui précisément montre que la vérité pour Manet n'est pas de l'ordre du réalisme, quoi qu'il ait très bien vu Courbet, n'est-ce pas, n'est pas de l'ordre du réalisme, mais de ce qu'on pourrait appeler, peut-être d'une certaine façon, si on ne veut pas employer le mot de métaphysique, ce qu'on pourrait appeler le surnaturalisme.
Quel est l'enjeu pour Manet des deux déjeuners sur l'herbe? Pourquoi y avoir introduit l'office naturel qu'il n'a jamais reconnu?
Écoutez, je pense que pour Manet, comme pour tout grand artiste, l'œuvre est intimement liée à la biographie et joue intimement avec la biographie. Je ne saurais pas dire le mode de rapport que Manet entretient avec ce fils naturel qu'il n'a jamais reconnu et qui passe paradoxalement, n'est-ce pas, pour être le frère de sa femme, ce qui est une chose tout à fait folle et tout à fait étonnante. Je pense, si vous voulez, que lorsqu'un artiste se confronte, comme l'a fait Manet, très naturellement, sans arrière-pensée, comme la chose la plus allant le plus évidemment de soi, lorsqu'un artiste se confronte au front buté du monde, n'est-ce pas, et au mur du monde à l'intérieur duquel il vit, eh bien, il fait forcément entrer en jeu tout son tissu biographique, tout ce qu'il vit et tous les aspects de sa psychologie, si je puis dire. C'est-à-dire que toute la famille s'y trouve d'une certaine façon obligatoirement. Ce qui me surprend, c'est moins ça, si vous voulez, c'est que peut-être pour moi le plus grand tableau de Manet, c'est-à-dire celui où précisément cet aspect, de négation, parce qu'il me semble que ce qui fait scandale dans l'œuvre de Manet, c'est que précisément Manet porte une négativité extrêmement forte, extrêmement violente et extrêmement forte, malgré lui d'ailleurs. Cet aspect de négation, eh bien, il parvient à le transcender peut-être dans un seul tableau, au fond, qui est peut-être son tableau le plus lyrique et qui est le portrait de Mallarmé. C'est-à-dire précisément au moment où, en face de lui, il n'a plus tellement une réalité, mais un effet de création. N'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, on entre dans un effet de réalisation métaphysique, artistique, qui est peut-être sans égal dans l'œuvre de Manet.
Un des sens de l'itinéraire de cette exposition, c'est le desserrement de la peinture, le nœud de la peinture française qui s'identifie avec la peinture occidentale à ce moment-là, de son histoire, le nœud va se desserrer. Et c'est le côté extraordinairement émouvant et unique de cette exposition. C'est le desserrement de la peinture auquel on peut assister.
La toile la plus forte, selon vous ?
C'est le Christ mort, là. De loin. Je pense que c'est de loin. Là. S'il ne fallait garder qu'une seule toile de Manet, c'est cette toile-là. Je pense. C'est la toile qui témoigne le plus d'un Manet producteur de grande peinture, au sens où Titien est producteur de grande peinture, et en même temps d'un Manet producteur de peinture révolutionnaire, c'est-à-dire d'un Manet producteur de peinture. Il renouvelle le sujet, l'iconographie. Moi, je n'ai pas le souvenir. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais quand même, je n'ai pas le souvenir dans la tradition occidentale qui est la tradition chrétienne. Ou du moins à partir du moment où cette tradition devient une tradition chrétienne. Je n'ai pas le souvenir d'aucun peintre prenant un thème chrétien, le déchristianisant, le laïcisant d'une part, et le picturalisant avec, d'une façon tellement délibérée d'autre part. Et le faisant, j'insiste beaucoup sur ce troisième point, avec un tel naturel. La grandeur de Manet, ce à quoi toute la peinture qui suit ne devrait pas cesser de se référer, y compris les peintres aujourd'hui, c'est le naturel, n'est-ce pas ? Peindre précédait le programme. Bon. La violence du rapport de ces bleus et de la robe ocre de l'ange de droite, ça, c'est quand même avant tout de la peinture, et c'est une peinture qui ne veut en rien scandaliser, c'est une peinture qui est rendue nécessaire par la pulsation intérieure de l'œil de Manet. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est absolument tout. La façon dont la chair, dont le corps du Christ est peinte, c'est simplement un problème de peinture. Vous me direz que ça existe aussi dans Piero della Francesca, bien sûr, mais pas avec une telle violence et pas à ce point en dehors des cadres aussi bien sociaux qu'artistiques et qu'esthétiques qui avaient été préparés par la société dans laquelle Manet vivait. Parce que ou bien on ne peignait plus des grandes scènes comme ça, et sans quoi Manet se relie à la grande peinture, c'est qu'il peint encore des grandes scènes comme ça, c'est qu'il fait un immense déjeuner sur l'herbe. C'est que il faut bien voir que tous ces peintres s'inscrivaient, même dans leur format, s'inscrivaient dans la tradition. Leur révolution sort du berceau de la tradition d'une façon avec un pouvoir de source prodigieux. Mais regardez ici tout simplement la beauté des visages, la beauté des visages des anges. Est-ce qu'on peut trouver de plus beaux visages dans l'histoire de la peinture ? On peut sûrement en trouver d'aussi beaux, mais on ne peut pas en trouver de plus beaux. C'est sûrement parmi les deux plus beaux visages peints par un peintre, où que ce soit. Après, on va beaucoup moins s'occuper de faire des choses comme ça en peinture. Et c'est à la fois un dernier salut à ce qu'on a fait pendant plusieurs siècles, et puis une porte qui s'ouvre sur de la nouveauté, peindre de la peinture.
Le nom de Manet a dans l'histoire de la peinture un sens à part. Manet n'est pas seulement un très grand peintre, il a tranché avec ceux qui l'ont précédé. Il ouvrit la période où nous vivons, s'accordant avec le monde qui est maintenant, qui est nôtre. D'étonnant dans le monde où il vécut, qu'il scandalisa. C'est un soudain changement qu'opéra la peinture de Manet, un renversement acide auquel le nom de révolution conviendrait s'il n'en découlait pas une équivoque. Le changement à vue de l'esprit dont cette peinture est significative diffère au moins pour l'essentiel de ceux que l'histoire politique enregistre. Ces premières lignes du célèbre Manet de Bataille remontent à 1955, Constantin Bezantios. Est-ce que ça vous semble encore aujourd'hui juste à propos de Manet ?
Je pense que toujours Manet reste surprenant, n'est-ce pas ? Même maintenant, après si longtemps, Manet a une présence qui ressemble à rien d'autre, dans ce sens que dans sa peinture, tout vient devant. Enfin, c'est une opinion subjective, mais moi, chaque fois que j'ai vu un Manet, j'ai l'impression que le sujet sort presque du tableau, n'est-ce pas ? Manet est devant. Et je pense qu'il y a une autre peinture qui est très très belle, qui est la peinture de la Renaissance, qui est toujours derrière, d'une certaine manière, enveloppée dans la lumière. Je ne pense pas que chez Manet, le problème de la lumière est important, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Je pense que la peinture, la lumière chez Manet compte pour dessiner la forme. Comme également, l'ombre, c'est pas l'ombre, c'est quelque chose qui aide à créer la forme. Il n'y a pas de clair-obscur chez Manet. Il y a du blanc, il y a du noir. Et il dessine. Et c'est peut-être à cause de ça que sa forme arrive intacte à nos yeux. Et ça, c'est assez troublant et je trouve très révolutionnaire. On ne parle jamais assez de ça. Quand cette violence du regard, n'est-ce pas? C'est un duel du regard avec la chose vue. Je crois que très peu de peintres de l'histoire de la peinture sont arrivés à faire ça. Manet, qui était en fait un bourgeois, qui était d'une certaine manière le porte-parole de la bourgeoisie sans le savoir, parce qu'il il le sentait plutôt comme ça, mais il n'a pas été reconnu, si vous voulez, comme ça, a eu cette violence du regard qui est assez étonnante et qui, au fond, enjambe la peinture. Et peut-être que Manet a une présence, c'est encore une opinion subjective, n'est-ce pas, qui le fait plus près des Fayoum, de la peinture, vous savez, de ces magnifiques portraits égyptien après Jésus-Christ, entre le 1er, je crois, le 3e siècle, où on a la même sensation que la toile avance vers nous, la tête avance vers nous. C'est pour ça que je trouve très, très moderne Manet. On parle toujours du sujet de Manet, ça scandalisait le sujet du Manet, mais le même sujet, peint par un autre peintre, s'il n'a pas, c'est la manière qui donne cette chose-là et qui a choqué la bourgeoisie, en fait. Ils ont trouvé ça crayeux, dur. Nous, on le voit plus comme ça, évidemment.
Bataille emploie souvent la formule Manet d'un réalisme invraisemblable.
D'une certaine manière, oui, parce que Manet n'est pas naturaliste. Et en même temps, il donne ce côté étonnant du regard que toute chose peinte, quand c'est peint comme il a peint, ou certains d'autres peintres aussi ont fait à leur manière aussi, c'est surprenant, même une tête, un livre, une main, je sais pas, une table, il arrive à donner l'étonnement de la chose vue.
Vous n'êtes pas sensible, si j'ai bien compris, à l'organisation d'une toile chez Manet. Par exemple, la mise côte à côte d'une femme et d'un perroquet, d'une bulle de savon et d'un enfant.
Je suis toujours troublé par la peinture, surtout, par cette présence-là.
D'un chemin de fer dont on ne voit que la fumée, finalement, qui fait disparaître l'enfant et la mère.
Mais vous savez, forcément, le regard, un moment, saisit des choses fugitives même, n'est-ce pas? Et Manet fait aussi ça. C'est-à-dire, quand il vous peint une tête à côté, peut-être qu'il y a ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Et c'est également très troublant, ça. Mais c'est encore un problème de regard. C'est que le regard est beaucoup plus étonnant qu'en n'importe quel discours, en fait. Chaque sujet chez Manet est traité différemment. C'est-à-dire, à chaque fois, il prend un risque comme s'il recommençait à peindre de nouveau. Et ça, c'est extrêmement audacieux. Il n'y a pas un discours imposé, ni une écriture imposée d'avance. Chaque tête, chaque sujet est traité différemment. Et il n'y a pas d'état d'âme aussi, c'est ça qui est très important. Mais la présence de la tête est là, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, il invente toujours. C'est dans ce sens-là que la réalité, le réalisme de Manet ne ressemble pas aux autres. Il y a une totale invention. Et il arrive des fois à finir une tête, et en même temps, c'est jamais un objet, cette tête. Il y a toujours un accident là-dedans. Il y a toujours l'accident pictural. Et ça me fait penser au mot de Baudelaire qui disait qu'au fond, un tableau peut être fini et pas achevé, et achevé et pas fini. Lui fait fini, et en même temps, c'est achevé sans tuer le tableau. Enfin, c'est très risqué. Et en même temps, comme souvent nous, on pense qu'un tableau maintenant esquissé est plus libre, on a la preuve contraire chez Manet qu'on peut faire également fini et que ça soit très libre. Parce qu'on a une esthétique à l'envers maintenant. On pense qu'en faisant une esquisse, c'est plus libre. C'est pas parce qu'on met des coups de pinceau plus libres que la toile est plus libre, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est une leçon aussi. Il fait des toiles très, très esquissées et très justes, qui sont achevées à leur manière. Mais ce qui est terrible avec Manet, justement, c'est que c'est un peintre où le discours est très difficile parce qu'au fond, tout est regard chez Manet.
Oui, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée aussi dans l'exposition Manet, ce sont les tissus, toutes les notations. Il réussit à donner la sensation de tissu sans véritablement les dépeindre ou les imiter ou peindre toutes les petites. Je trouve que les robes... Je suis très sensible à ça. Les robes, les tissus des canapés, tout ça, c'est très très présent uniquement par la peinture. C'est de la peinture avant tout, mais c'est aussi des tissus transparents, c'est des tissus mouchetés. Et alors ça aussi, moi, ce que je retrouve chez Matisse, et que je crois que Matisse a beaucoup beaucoup regardé ça, la manière de peindre les visages, les yeux et les parures.
Peindre un vêtement, c'est aussi rendre absent le corps. Est-ce qu'il n'y a pas un problème le problème du corps chez Manet?
Mais c'est-à-dire, ce qui est très intéressant...
Chaque fois différent, oui.
Oui, c'est vrai. Mais si vous regardez bien toutes les formes de Manet, c'est un tour de force. Par exemple, le fifre. On a l'impression qu'il est découpé au ciseau autour du fond. C'est une chose invraisemblable. Et ça tient. Il est dans l'espace, il est dans le fond. Alors, ce rouge avec les noirs autour, c'est incroyable et ça tient. La tête de Berthe Morisot, c'est pareil, n'est-ce pas? Il met des noirs totalement brutaux sur du blanc ou sur un fond beaucoup plus clair et ça saute pas. Je ne connais pas un peintre qui a été aussi loin dans cette conception-là, n'est-ce pas? Donc, la forme est toujours intacte. Et quand il la fait plus floue, elle est toujours là. Donc, le corps est présent toujours, c'est ça.
Le portrait de la maîtresse de Baudelaire, c'est... C'est vraiment une toile extrêmement difficile. C'est vraiment une toile très, 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 très difficile.
Dominique Fourcade.
Manet vraiment n'avait pas peur de nous exposer la difficulté de rendre ce que l'on voyait. Il a dû être tellement, tellement, tellement imbu, habité de l'immensité de cette robe, qu'il en a fait quelque chose de complètement disproportionné, que si on regarde ça sur le plan strictement académique, cette toile n'est absolument pas plausible. La jambe qui sort du côté gauche du tableau ne peut pas être liée au reste du corps de cette femme. La robe est exorbitante, les masses chromatiques sont déchaînées, et en même temps, c'est un essai pour voir comment situer comme ça des grandes nappes de blanc et de lumière dans l'espace d'un tableau. Et puis, évidemment, il y a cet éventail vert qui vient essayer de poser toutes ces choses, mais qui n'arrive pas à poser cette chose. C'est une toile complètement manquée, très, très impressionnante aussi pour ça, je pense.
Il n'avait pas peur de manquer l'étoile.
Non, il n'avait pas peur de manquer l'étoile.
C'est très important, je crois.
C'est très important. Le problème de la réussite et du manque est un problème qu'il a décidé de transgresser littéralement. Ce qu'il fallait, c'était attaquer l'intérieur de la peinture. Et ça, c'est la nouveauté de Manet. C'est au fond la nouveauté colossale, capitale, ce pourquoi Manet est Manet. Il a commencé à peindre de la peinture et non plus un sujet. Il est le premier qui l'a... Il n'est pas le premier qui l'a fait, mais il est le premier qui l'a explicitement fait. Il est le premier qui a forcé toute l'humanité regardante à s'apercevoir que la peinture consistait fondamentalement en cela. Il est bien entendu que chez Danticien, ça consiste aussi en cela. Mais Manet est le premier qui nous force à nous poser ce problème avant tous les autres. Il peint non pas une femme ou une robe d'une femme, mais il peint de la peinture. Ça, c'est le problème Manet. Et ça sera le problème des 100 ans de peinture qui vont suivre.
Enfin, il peint de la peinture qui doit aboutir peut-être à une image.
Non, je pense que même pas. Je pense que même pas. Je pense qu'au fond, il se moquait de l'aboutissement de l'image. Je pense que sinon, il n'aurait jamais osé, par exemple, une toile comme l'Olympia, si c'était l'image qui avait pu le concerner. Je pense que dans l'Olympia, par exemple, il a voulu voir s'il était capable de juxtaposer un blanc chaud, une couleur froide, des couleurs acides, une peinture en volume et une peinture en aplat, et que l'image, tout ça, c'est complètement secondaire, c'est vraiment complètement secondaire. Sur le plan de la figure, de ce qui est montré, c'est pour moi inintéressant. Je suis persuadé que pour Manet, c'était pas fondamentalement intéressant.
Je pense que l'Olympia est un tableau sur lequel on peut revenir éternellement.
Françoise Cachin, conservateur au musée d'Orsay.
D'une certaine façon, l'exposition la montre beaucoup plus frais, avec beaucoup plus de fraîcheur que nous ne pouvions le voir depuis des années, puisqu'elle était récemment nettoyée, qu'elle est dans l'état où elle était, sans doute, enfin sauf si certaines couleurs ont varié, ça on ne peut pas le savoir, à peu près dans l'état où elle a fait scandale en 1865, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle.
Et pour vous, c'est une toile qui reste très frappante, très importante, aujourd'hui?
Bon, je pense que c'est probablement son chef-d'œuvre, certainement. Tout le monde connaît l'Olympia, c'est une dame nue sur un canapé, avec une servante noire qui lui apporte un grand bouquet de fleurs, et qu'on peut voir toute l'année au Jeu de Paume, qu'on verra bientôt au musée d'Orsay. Et c'est un tableau qui est à la fois un tableau de la grande tradition picturale, qui est peint d'après, qui est une espèce de pastiche de la Vénus d'Urbain du Titien, mais qui montre toute la différence entre l'attitude de Manet et l'attitude des peintres de la Renaissance italienne. Il n'y a aucun... il n'y a aucune distance entre le modèle et le peintre. Cette femme nue qui a la position de la Vénus d'Urbain, avec même le drapé qui est derrière elle, qui est celui de la Vénus d'Urbain, est une femme présente, un modèle qu'on connaît très bien, très reconnaissable, qui regarde le public, qui a une attitude absolument neuve dans la peinture.
En quoi est-elle neuve, cette attitude ?
Eh bien, jusque-là, un nu féminin était une Vénus, une nymphe, enfin, avait toujours un alibi mythologique, par exemple. Là, c'est simplement un modèle, et en plus un modèle dans une situation très particulière, car les gens de l'époque comprenaient très bien qu'il s'agissait d'une courtisane sur son lit, et que la servante apporte le bouquet d'un des visiteurs de cette dame. C'est une espèce d'image de la société de l'époque, parce que c'est une cocotte sur son lit qui n'a aucune gêne, aucune honte, qui regarde très tranquillement. Et Manet ne porte aucun jugement moral sur la situation. Alors évidemment, ça a été un choc. Enfin, ça a été un choc en 1865 quand le tableau a été montré.
Est-ce qu'il y a encore des peintres qui font scandale de nos jours ? Et qu'est-ce que vous pensez d'un peintre comme Manet qui doit assumer deux scandales ?
Mais il faut se situer dans toute une histoire de la peinture, c'est-à-dire au XIXe siècle. Il y avait une opinion. Il y avait une opinion réactionnaire, qui était l'opinion officielle de la bourgeoisie, etc. Et puis, il y avait des peintres comme Manet qui, au fond, voulaient dire quelque chose d'autre. Ils sont heurtés dans cette opinion, dans cette peur, au fond, des bourgeois de regarder autrement. Alors là, il y a une réaction extrêmement violente, parce qu'il les a heurtés.
Constantin Byzantios.
Actuellement, il n'y a pas une opinion officielle, n'est-ce pas ? On ne sait plus où elle est, en tout cas. C'est très difficile de dire qui représente l'opinion actuelle. Alors, les cartes sont troublées, parce que qui est le peintre académique, qui est le peintre d'avant-garde, n'est-ce pas ? C'est très flou. C'est très flou, parce que la peinture a été envahie par des discours qui ont enjambé la peinture. Alors, on ne sait pas très bien. Et notre époque est beaucoup plus ambiguë. Actuellement, où est l'interdit ? Tout est possible. Et rien n'est possible aussi, peut-être, je n'en sais rien.
Jörg Ortner.
On peut se situer par rapport à Manet, soit dans un contexte historique dans lequel je ne me suis pas trouvé. En tout cas, Manet n'était jamais pour moi une préoccupation. Jamais. Il y avait tant d'autres peintres qui m'intéressaient infiniment plus que Manet. Mais ça, c'était que j'étais obligé de m'intéresser à Manet, c'était plutôt un accident qu'on ne peut pas choisir. Ce n'était pas un choix. C'est une chose qui s'est plutôt imposée.
Alors, qu'est-il devenu cet accident ? Il est devenu quand même un travail, à partir, voilà, entre autres, du déjeuner sur l'herbe.
Voilà. Disons que... les 35-75, dans une situation un peu particulière, j'ai une sorte de vision qui était liée quand même à Manet. Première chose que j'ai essayé de faire, premièrement, de m'interroger sur cette apparition, ou sur cette vision, pourquoi, comment. Chose qui était étrange, qu'elle était vraiment carrément liée à un tableau que je pouvais identifier. Et dire, peint par un tel, et il s'agissait d'un tableau bien précis qui était les déjeuners solaires. Mais quelque part, quand on réfléchit, ce sont des accidents. Mais en même temps, on ne tombe pas sur n'importe quel accident. En un premier temps, j'étais plutôt pris de m'interroger sur les phénomènes et sur cet accident. Pour arriver à la conclusion, ça n'a aucun sens. La seule chose qui m'est restée à faire, puisque tout cela tourné autour d'une question de l'origine, et tout discours, à mon avis, qui a comme objet une chaîne de pensée, aussi bien que dans le domaine du sensible, qui a comme arcane l'origine, est une impossibilité. Relativement rapidement, je suis arrivé à la conclusion, si j'ose dire, c'est même pas une conclusion, mais disons à la constatation banale, que toute recherche d'origine, aussi dans ces domaines, même si on croit avoir tous les éléments, est impossible. Et en plus, pas seulement impossible, mais qu'elle n'a aucun sens. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis posé tout simplement la question, quoi faire ? Et là, finalement, lentement, cet événement bascule dans un travail. Travail assez complexe, en tout cas pour moi, le plus ambitieux que j'ai mis en chantier. Ambitieux pour plusieurs raisons, parce que renverser une scène peut être une opération assez simpliste, théâtrale.
Je pourrais peut-être expliquer ce que ça veut dire, renverser la scène. C'est-à-dire, c'est renverser la scène du déjeuner sur l'herbe. Enfin, c'est inverser ce qui est donné à voir.
Oui, mais qu'est-ce qui est donné à voir? Je crois une grande partie qui est donnée à voir n'est jamais vue. Cela se produit chaque fois quand une œuvre représente quelque part les mondes, encore une fois. Moi, je crois que ça concerne chaque travail d'artiste majeur, que dans une certaine mesure, c'est le monde, encore une fois donné, à partir d'un horizon d'un individu ou d'une civilisation ou d'une époque, hein, avec un horizon intégré. Justement, l'horizon d'un ici et maintenant. Mais ça n'empêche pas, c'est le monde, encore une fois. Alors, le monde, encore une fois, peut être interrogé aussi souvent que le monde tout court donnera toujours des réponses différentes. C'est pour cela, il n'est pas étonnant que le déjeuner sur l'herbe, malgré son histoire, la relation avec moi-même, c'est un tableau tellement connu, qui est passé pas mal des banalités, et c'est venu en sorte lieu commun. Mais la chose qui est assez étrange, c'est que ce lieu commun à des réserves et en tout cas agit vis-à-vis de ma propre mémoire en tant que telle. Et dans cet aspect-là, d'une manière fraîche. Et vraiment de l'intérieur, c'était pas du tout une sorte de révélation étant devant l'objet tel quel que ce tableau a travaillé en moi. C'était justement les tableaux à travailler en étant absent, disons matériellement ou physiquement parlant. Chose qui est quand même qui m'a assez surpris quand j'ai essayé de m'interroger un peu plus près, c'est que forme de quatuor ou partie en quatre entre deux hommes et deux femmes que finalement la personne qui est peut-être le centre, le cœur ou l'arcane ou où la mesure de tout de la, du tableau, à mon avis, est la baignée. Ce n'est pas du tout le groupe de trois au premier plan qui est en train de se baigner, en tout cas dans un prétexte de se baigner, habillé. Il ne faut pas oublier. Et probablement uniquement du fait qu'un corps de femme est présent, lié au liquide d'un prétexte, faire acte de se baigner, a eu comme conséquence que probablement c'est le premier tableau de la peinture occidentale où une femme qui est représentée, qui est, où elle n'est pas nue, mais déshabillée. Entre la marge paraît assez anecdotique, entre une femme déshabillée et nue, et pourtant ça ouvre de champs et de visions assez, assez étendus.
Alors, le travail que l'on peut voir à Beaubourg s'appelle la main courante.
Oui, disons la main courante. Moi, j'ai utilisé deux fois le terme de la main courante, une fois pour la modernité comme un garde-fou pour ne pas se perdre de manière assez péjorative, que j'appelle mon propre travail la main courante. Pour ce projet, ce n'est pas par hasard, mais en tout cas, disons, la main courante, il y a plusieurs usages dans la langue française. Tout le monde qui passe les couloirs de Montparnasse ou de Châtelet peut savoir qu'est-ce que c'est une main courante. C'est très difficile sortir d'une main courante une fois engagée, et que aussi bien le journal du jour, dans un commissariat quelconque de la police, appelle la main courante au fur et à mesure hein, que les informations viennent. Bon, pourquoi la main courante ici? C'est tout simplement que je, puisque le projet pour le réaliser, puisque je ne suis pas, je suis convaincu qu'il n'y a aucun rapport entre une trace d'écriture et une image visuelle, le but est quand même de faire une image, mais pour cette image, pour pouvoir les faire, il faut que je réunisse des conditions qui sont nécessaires, que l'objet...
Faire une image, il faut d'abord l'écrire.
Non, ça je ne crois pas du tout. Ça je ne crois pas du tout. Si on peut les faire... Je ne crois pas du tout que c'est nécessaire d'abord de l'écrire. D'ailleurs, je ne crois pas du tout avoir réussi ni de l'écrire, ni de les décrire. Absolument pas. Ce sont deux domaines extrêmement... éloignés, qui fonctionnent dans leur monde spécifique et propre, mais tout simplement de peindre ces tableaux, puisqu'il s'agit d'un projet pour une peinture.
Est-ce qu'on pourrait dire que le travail que vous montrez à Beaubourg serait le négatif du grand œuvre?
Non, non plus, non plus. Je crois que les deux domaines sont trop séparés. La chose que j'ai essayé de faire, du fait que je me trouve dans une situation de ne pas avoir l'ordre instrumental qui s'impose, c'est l'ordre instrumental, c'est pas moi qui l'impose. Il s'impose par rapport au sujet. C'est le sujet qui le demande ou qui l'exige. Et que aussi le sujet, en tout cas cette toile que je désire de faire, obéit à certains problèmes que je pourrais énumérer, mais quand elles ne sont pas réunies, ça n'a aucun sens de l'entreprendre. Je me trouve dans une situation, je ne peux pas peindre à l'heure actuelle un tableau qui me prend un an et demi ou deux ans de travail. Et je le sais que quand je nomme ces durées-là.
Alors, comment serait-il ce tableau? S'il est l'envers du déjeuner sur l'herbe.
Il faut le voir.
Édouard Manet, 1832-1883, Philippe Lacoulabarthe, Dominique Fourcade, Isabelle Fontaine, Jean-Pierre Bertrand, Jean-Michel Alberola, Jörg Ortner, Françoise Cachin, Marcelin Plenet, Constantin Byzantios. Nuit magnétique, Marie-Dominique Bougot, Pamela Dousseau, Jean Deuve. Bonsoir.
Cette nuit magnétique a été diffusée la première fois le 8 juin 1983 sur France Culture.